Dernier conseil. Madame de Guyonnet à Monsieur Paul Chamberlain. Je suis rentrée à Paris hier, mon aimé, de cette petite plage hollandaise où j'ai fait une saison mélancolique, et voici que ce matin, quelques amis invités à déjeuner pour potiner bien vite, j'apprends que vous vous mariez. Je ne vais pas ajouter, comme dans la romance, tu sais que j'en vais mourir, mais tout de même, je suis un peu triste. Je suis triste parce que vous me quittez. Je le suis davantage, je crois, parce que vous avez préparé silencieusement et sournoisement votre projet, sans en rien dire à votre vieille amie. Quoi ? 5 ans de vie plus étroitement communes, à coup sûr, que celle dont vous vivrez avec votre femme, car si nous ne nous voyions pas tous les jours, au moins avions-nous chaque fois quelque chose à nous dire. 5 ans de bonne tendresse, où j'ai partagé vos demi-joies et vos demi-chagrins d'homme du monde, ne valait-il pas un peu de franchise et de confiance? Au lieu de m'écrire, tous ces derniers jours, de jolis petits bouts de lettres jésuitiques, où vous persistiez à m'embrasser sur les lèvres en post-scriptum, qu'eût dit votre fiancé, cher? Ne pouviez-vous venir à moi, visage découvert, et me déclarer simplement « Jeanne, je fais une fin, je me marie ». Mais comme vous êtes la personne qui me connaît le mieux et qui m'aime le mieux ici-bas, je veux vous consulter avant tout autre. Eh bien, mon beau Paul, demandez ou non, vous n'échapperez pas à ma consultation. Puisque me voilà, de par votre abandon, réduite à jouer les mères, je prends mon rôle au sérieux et je vais, s'il vous plaît, vous donner, en même temps que mon avis sur votre mariage, mes pronostics sur son avenir. Il me semble que, lorsqu'on se marie, il faut assurément examiner avec attention le compagnon de route qu'on choisit, mais qu'il est avant tout indispensable de s'examiner soi-même. Avez-vous fait ce petit examen particulier? Regardez-vous dans une glace, mais regardez-vous sérieusement, en critique, et non pas de ce coup d'œil satisfait que je vous ai vu tant de fois jeter sur les miroirs au moment où, ganté et le chapeau déjà mis, vous alliez sortir. Regardez bien, vous voyez un homme d'une prestance irréprochable, un peu chauve, les yeux légèrement troubles, la peau imperceptiblement fanée, quelques rides aux tempes, toutes ces misères sauvées d'ailleurs et, mon Dieu, presque cachées, grâce à l'hygiène et à la tenue. De même, l'estomac est un peu capricieux, le sommeil un peu fugace, les névralgies surviennent une ou deux fois par semaine. N'importe, vous êtes à tout prendre, ce qui s'appelle un homme jeune encore. Voilà pour le physique. Au moral, vous êtes intelligent, vous avez l'esprit de tout le monde, de tout notre monde, si vous voulez, mais vous êtes remarquablement paresseux et par suite fort ignorant. Combien de fois, cher, vous ai-je servi de dictionnaire, d'atlas et de précis d'histoire, moi qui ne suis qu'une pauvre femme serinée au couvent? Vous l'avouiez très gentiment, du reste, à ce point que vous faisiez presque toujours votre correspondance quand j'étais près de vous, pour lever vos doutes sur l'orthographe et les départements. Vous souvenez-vous de Cotteret, Pyrénées-Orientales? Vous écriviez cela à un ministre. Ah, le bon temps! J'ai envie de pleurer en y repensant. D'autre part, vous possédez un cœur ordinaire, un cœur ni mauvais ni bon, plutôt pas mauvais. Comme la plupart des hommes, vous êtes capable de toutes les manifestations du dévouement pour une drôlesse qui vous couvrira de ridicule, tandis que vous exploiterez, avec un égoïsme inconscient et féroce, une honnête femme dont vous ne mettrez pas en doute l'amour et la fidélité. Mais, je le répète, la plupart des hommes sont ainsi. Vous, vous avez, de plus que les autres, une qualité qu'il faut noter, vous êtes gentil. Oui, gentil. Je ne trouve pas d'autre mot, et c'est bien cela que je veux dire. Vous avez des façons aimables, je ne sais quoi de caressant, qui illusionne et qui captive quand on est près de vous. Vous savez dire le mot qu'il faut pour être cru sincère, faire le compliment qu'il faut pour flatter. Vous trahissez le sourire aux lèvres, l'amour dans les yeux, et, ma foi, peut-être dans le cœur. Je viens de relire les 5 ou 6 billets que j'ai reçus de vous à Scheveningen, les derniers, écrits pendant que vous faisiez votre cours. Il y a des fautes d'orthographe, mais n'importe, ils sont charmants. Tel est, en somme, l'époux qui va être proposé à l'admiration et à l'adoration de mademoiselle Claire Lavalette. Je vous entends d'ici me répondre d'un ton piqué. Que diable, ma chère, ne dites pas tant de mal de cet époux. Il ne vous a pas déplu à vous-même, il me semble. C'est vrai, Paul, vous m'avez plu. Je ne cacherai même pas que j'ai été, comme vous dites, très emballée sur vous. Mais n'oubliez pas qu'en cet heureux temps, vous étiez jeune, jeune tout court, entendez-vous, et non pas jeune encore. Vous étiez un fort joli garçon, très solide, très ardent, la peau fraîche, l'œil vif, infatigable à tous les genres de sport. Vous aviez encore une espèce de virginité d'âme, un peu fripée, c'est vrai, mais tout de même capable de figurer honorablement à votre apport. J'ai été, mon cher, votre première femme du monde. Aujourd'hui, dame, toutes ces qualités se sont atténuées. Je crois même qu'il en est de disparu. Moi, je ne vous en aimais pas moins, parbleu. Je vieillissais avec vous. Vous étiez toujours le Paul du premier jour. Il me faut un choc brusque comme celui que je reçois pour me réveiller, me faire faire de vous un examen dont, hier, j'aurais repoussé même la pensée. En un mot, ce que j'aime en vous, aujourd'hui, c'est notre jeunesse, c'est notre amour. Mais elle, mon amie aimée, elle, la petite pensionnaire toute fraîche, issue du couvent de l'avenue Hoche, qu'espère-t-elle, qu'attend-elle de vous? Tout justement ce que j'ai trouvé en vous quand je vous ai aimé, ce que je vous pardonnais de n'avoir plus parce que vous l'avez dépensé avec moi, la jeunesse. Elle vous demandera tout ce que vous m'avez donné, tout ce que vous êtes hors d'état de lui donner, puisque c'est moi qui vous l'ai pris, c'est-à-dire le goût de l'amour, l'insouciance de l'avenir, la fraîcheur physique, la gaieté. Et vous lui offrirez un amant délabré, tenant de ses baisers une comptabilité soucieuse, fermement résolue à faire passer l'hygiène avant l'amour, blasé d'ailleurs sur les femmes et ayant le plaisir ultra mélancolique. Ne dites pas non. Si nous avions encore l'amour gai, c'est que nos souvenirs nous grisaient, c'est qu'il traînait tant d'éclats de rire, tant de francs baisers échangés de vos lèvres aux miennes, naguère, dans votre cher petit appartement de la rue Ballu, que nous n'avions point de peine à nous y retrouver jeunes. C'est pour cela que vous me reveniez toujours, ô coureur, après vos essais d'infidélité. Et si vous aviez un peu raisonné vos sensations, vous vous seriez depuis longtemps aperçu que je suis pour vous, désormais, la seule maîtresse possible. Donc, qu'arrivera-t-il ? Je connais à peine votre futur. Vous me rendrez ce témoignage que je n'ai pas cherché à vous en dire du mal, ce qui aurait pu me tenter. Mais, quelle qu'honnête et résignée qu'elle soit, l'éternel malentendu des mariages du monde va intervenir entre vous deux. Elle, n'ayant pas encore aimé, vous, incapable d'aimer, en dehors d'une vieille habitude. Je sais bien que vous ferez l'essai loyal de la tendresse conjugale, mais je vous prédis que vous échouerez. Le plus beau mari du monde ne peut donner que ce qu'il a, et vous n'avez plus la seule chose dont se soucie votre femme, l'amour jeune. Cependant, comme Claire Lavalette a, je veux le croire, la monnette, elle essaiera de vous aimer tout de même, sinon pour le contentement physique que vous serez hors d'état de lui donner, au moins pour votre cœur et pour votre esprit. Mais que voulez-vous? Si la pauvre enfant n'est pas une petite cruche, elle n'ira pas longtemps sans connaître votre égoïsme irrémédiable et votre ignorance de tout ce qui doit s'apprendre. Elle savoura que son mari est un être moral, comme la nature en fabrique à la douzaine, qu'il n'a jamais dû posséder qu'une supériorité, celle d'être plus jeune que les gens de 35 ans quand il en avait 25, et celle-là, hélas, il ne l'a plus. De votre côté, votre femme, qui ne parlera pas la même langue que vous, dont la jeunesse troublera votre repos comme un reproche, alors même qu'elle sera muette et ne demandera rien, votre femme vous ennuiera, vous la fuirez. Ainsi, vous renoncerez, au bout d'un temps plus ou moins long, à l'entreprise si laborieusement commencée. Elle se mettra en campagne pour trouver quelqu'un qui soit pareil au vous d'autrefois, au vous que j'ai aimé. Et vous, dame, mon cher Paul, vous reviendrez tout doucement à l'ancienne habitude qui vous attendra. Eh oui, vous me reviendrez, j'en suis sûr. Et c'est cette certitude qui m'empêche d'être trop malheureuse aujourd'hui. Car pourquoi le nier? Je suis un peu nerveuse en pensant à cette petite qui va vous tenir bientôt dans ses bras maigres et que vous allez vous efforcer d'aimer pendant quelques semaines. N'importe, je suis rassurée sur l'avenir. Mariez-vous, mon bon ami, tâchez d'être heureux, je vous le permets. La seule chose que je vous demande, au nom de notre vieil amour, qui fut bien bon, n'est-ce pas, c'est de penser tout de suite à moi le jour où vous serez décidé à tromper votre femme. À quoi bon tenter des épreuves que vous savez d'avance inutiles? Croyez-moi, Paul, dans votre intérêt comme dans le mien, réservez à votre vieille amie votre première infidélité.